Carole Fille, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc Une femme au téléphone chez l'Arbalète Gallimard, l'un des cinq romans finalistes du prix RTL Lire. D'où vient ce livre?
Alors, il est né des souvenirs, des bribes de conversation que j'ai eues avec ma mère sur plusieurs années. Ce livre est venu de là. C'est des choses que j'avais en mémoire, mais c'est librement recomposé ensuite
Oui.
et mis en forme sous forme d'appel téléphonique, sous forme de message. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler du harcèlement téléphonique, du lien, de la dépendance, de la façon dont les relations parents-enfants évoluent avec le temps. Et est-ce qu'on reste l'enfant de ses parents? Est-ce qu'on les parents nous parlent encore de la même façon que quand on avait 10 ans ou 5 ans? Ou est-ce que ça change? Est-ce que parfois aussi on voit parfois le rapport entre Charlène et sa fille évolue et elle lui parle comme si au contraire la fille devenait la mère. Enfin, c'est tous les rapports de génération qui m'ont toujours intéressée et de voir comment ça change, comment ça évolue. Voilà.
Mais par exemple, est-ce qu'on retrouve dans ce livre des phrases prononcées, dites par votre mère? Ou est-ce que tout est une recomposition?
Non, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment retravaillées parce que je pense que dans son intégralité, enfin, ce qui est vécu n'est pas forcément intéressant. Ce qui est bien, c'est de le ciseler, d'aller plus
Bien
loin.
sûr.
Donc, c'est vraiment une base pour moi, pour l'écriture. C'est un point de départ et je trouvais qu'il y avait quelque chose effectivement de drôle dans ce que pouvait dire ma mère parfois, mais je me suis servi de ça pour aller essayer d'aller vraiment plus loin et que ça devienne un peu plus universel et que ça parle à tout le monde en tout cas.
Il y a bien sûr le choix de la forme, parce qu'on a bien compris le thème que vous vouliez traiter, mais là, le faire sous la forme de cette restitution d'un monologue téléphonique, c'était du point de vue de l'écriture, c'est assez audacieux, c'est un peu un défi qu'on se lance à soi-même, enfin, ça relève de la prouesse d'écriture. Ce choix-là, c'est imposé à vous d'emblée?
Oui, c'est un choix, choisir de structurer non pas en chapitre, mais vraiment en appel téléphonique, en message téléphonique. Je trouvais que c'était intéressant pour parler du lien, de la dépendance, et effectivement, utilisé de façon quotidienne par la mère, Charlène, ça devient un véritable moyen d'asservissement sur son entourage. Et je trouvais du coup, ça me permettait de parler de ce que je voulais. Le dispositif n'est pas venu au début. Au début, c'était une conversation qui est devenue rapidement une conversation à sens unique, donc un monologue. Parce qu'il me semblait en face, les réponses de la fille étaient quand même assez vaines. Et je préférais faire entendre le silence et l'exaspération qui peuvent passer dans ce silence plutôt que répondre oui, d'accord, pourquoi? Parce que finalement, c'est une mère qui prend beaucoup de place, comme beaucoup de mères, mais c'est une mère
Certes.
c'est la mère, quoi, la figure vraiment hyper puissante et très fragile de la mère.
Mais si je vous comprends bien, vous avez eu des premières versions, des esquisses où on entendait la voix de la fille, où il y avait les deux voix.
Oui, j'ai tenté différentes choses, mais très rapidement, s'est imposé la voix de la mère, qui était une sorte de flux, de logorée, parce que Charlène, c'est quelqu'un qui parle non pas pour échanger, pour converser, ce qui aurait permis de faire un dialogue, mais qui parle pour vider un
Oui,
trop-plein et
pour
pour
s'épancher, c'est ça, c'est le
se
mot.
décharger de ses angoisses. Donc il n'y avait pas de place pour quelqu'un en face, en fait. C'est vraiment. Voilà. Et qui parle aussi pour raconter sa vie, qui est
Bien sûr.
voilà auprès de sa fille, et qui avait d'après moi un côté aussi midi latte attardée, c'est-à-dire qu'elle lui raconte ses rencontres sur les sites
Oui,
internet, voilà, bon,
on
tenter
va
d'y
y
venir, voilà,
revenir,
tout à
on
fait
va y
d'accord, voilà,
revenir. Vous devancez mes
je suis là
questions.
dans les 5 minutes, c'est génial qu'on puisse couper parce que je raconte un tas de conneries, merci Bernard
Ah ben ça,
Lehune,
ce ne sera pas coupé. Hein. Alors
je coupais.
évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, même si ça n'a pas grand-chose à voir, mais par la forme, on pense à la voix humaine de Cocteau. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête, enfin, qui vous a influencé dans votre choix d'écriture ou pas du tout? Est-ce que vous avez fait le rapprochement peut-être vous-même après coup?
Non, pas du tout. J'ai pas pensé au départ. J'avais plutôt dans l'idée de fixer le souvenir de ces conversations et essayer de m'en souvenir, de les structurer, de chercher à comprendre ce qui se passait dans ce mécanisme de parole au téléphone, ce qui fait qu'on n'arrive pas à raccrocher et qu'on se sent même obligé de décrocher le téléphone alors qu'on n'a pas envie de parler, ce qui fait que cette mère prend beaucoup de place. Et la voix humaine de Cocteau, c'est le contraire en fait. C'est plutôt une femme qui parle. À son amant qui lui laisse des messages sur son répondeur. On n'entend jamais effectivement l'autre personne, donc c'est vrai que la structure est assez proche, mais le sens n'est pas du tout le même. on est dans le dispositif inverse, puisque là, le lecteur est mis dans la place de recevoir ses messages, à la place de la fille, en fait.
Alors, cette Charlène, c'est quand même quelle personnalité, quel personnage. Et au départ, c'est un peu un monstre. Enfin, le lecteur, il faut bien le dire, la première réaction, on s'identifie sans doute à la fille, c'est l'agacement. Enfin, cette mère qui la harcèle, qui ne pense qu'à elle, qui a raconté sa vie.
Oui, oui. Charlène, c'est quelqu'un surtout qui se sent seul, qui vit seul, et qui, pour combler cette solitude, appelle ses enfants qui vivent très loin de chez elle. Donc elle essaye de combler cette distance géographique avec ses appels. C'est un monstre, je sais pas, il y a Duras qui dit que toutes les mères sont folles, et effectivement, c'est une mère très envahissante. Elle fait aussi partie de cette génération de femmes qui sont mariées très très jeunes, qui ont fait des enfants très jeunes et qui ont divorcé. Pour moi, c'est un peu une génération d'invisibles. C'est ce genre de femmes qu'on imagine dans leur cuisine avec leur tasse de café le matin, qui n'ont pas forcément des grosses retraites et qui n'en finissent pas de revivre cette adolescence ou cette jeunesse perdue, puisqu'elles se sont mariées jeunes et qu'elles n'ont pas forcément eu le temps de, entre guillemets, profiter de la vie et de s'amuser. Et pour leurs enfants, elles peuvent paraître comme des adolescentes attardées ou comme des petites filles. Voilà, c'est aussi une vieille midinette, en fait.
Ouais. C'est ça, c'est que d'un seul coup, elle est en mesure de vivre véritablement une adolescence à l'orée du troisième âge, quoi.
Exactement, mais c'est l'adolescence qui dure depuis longtemps, depuis des années, puisqu'elle a divorcé après avoir élevé ses enfants, donc vers 40 ans. Donc c'est l'adolescence qui dure déjà depuis plus de 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui est assez, outre son ex-mari, qui a eu l'occasion de rencontrer d'autres hommes aussi, donc qui est assez amère de ses relations avec les hommes, mais en même temps qui y croit toujours, qui a ce côté juvénile, qui repart, qui est accro au site de rencontres sur Internet, donc qui passe un temps incroyable à raconter ses expériences à sa fille, ses rencontres, ses déceptions. Et elle est vraiment comme une jeune fille qui y croit toujours et qui repart toujours au combat.
Chinchilla 417, c'est ça? Donc, et son avatar, notamment sur Mythic, quand elle part à la recherche de l'homme de sa vie, du prince charmant.
Oui, c'est un pseudonyme qu'elle utilise parce qu'effectivement, c'est une femme qui vit avec son petit chien qui s'appelle Chinchilla. Et c'est aussi un pseudo qui lui permet d'aller sur Mythic et sur d'autres sites parce qu'au début, elle teste, puis après, elle va sur plein d'autres sites.
Ça, c'était le cas de votre mère, par exemple. Enfin, vous connaissez des sexagénaires qui pratiquent les réseaux de rencontres?
Évidemment, il y a beaucoup de femmes comme d'hommes qui utilisent ces réseaux aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge, je pense. Après, il y a des sites qui correspondent plus à certaines tranches d'âge. Mais en tout cas, pour elle, c'est vraiment un moyen de sortir de sa solitude, puisqu'elle vit seule et que Internet devient, comme les appels à ses enfants, sa bouée de secours, son seul lien. Et c'est vrai que ce dispositif-là me permettait de parler de ça, du lien au monde qui est maintenu grâce au téléphone, grâce à Internet.
Enfin, quand même, elle est très toxique, cette Charlène, parce qu'elle pratique en permanence ce qu'on appelle le chantage affectif.
Exactement. Oui, elle est maître... Effectivement, ces appels alternent plaintes, reproches, menaces. Et elle harcèle au téléphone et elle trouve toujours un moyen de se faire rappeler ou un moyen de se plaindre. Et puis après, elle devient amusante. Enfin, elle maîtrise vraiment toute la gamme du chantage affectif, comme vous dites. Et c'est ce qui en fait quelqu'un d'envahissant. Mais justement, ce qui m'intéressait de montrer, c'est pourquoi on écoute Charlène malgré tout. Qu'est-ce qui fait qu'on ne raccroche pas et ce qui fait que le lecteur aussi reste accroché. J'avais vraiment l'impression d'essayer de comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur, ce langage, cette emprise maternelle quand on est devenu adulte, et comment on a quand même du mal à s'en dégager malgré l'âge, et comment ce discours toxique effectivement continue à avoir de l'influence sur son entourage.
Vous n'avez pas eu peur de charger la barque parce que elle est seule, elle est malade d'un cancer, c'était une grosse fumeuse, elle est en dépression, ça fait beaucoup pour cette pauvre Charlène.
Non, elle est diagnostiquée tantôt bipolaire, tantôt anxio-dépressive, après effectivement elle traverse un cancer, donc elle a différentes pathologies. ce qui fait dire à ses amis quand ils viennent la voir à l'hôpital, il faudrait que tu nous dises, parce qu'on ne sait plus à quel étage te trouver.
Que tu choisisses.
Il faudrait que tu choisisses une pathologie, que tu te limites à une seule pathologie. Et non, je n'ai pas voulu charger la barre, que je pense que c'est quelqu'un aussi qui est sous antidépresseur, qui fait des mélanges assez explosifs entre cigarettes, alcool, antidépresseur. Et pour moi, c'est aussi... une certaine génération, voilà, dont je voulais vous parler tout à l'heure, c'est ces femmes invisibles qui finalement sont aussi accro aux médicaments, accro à la cigarette, au tabac, au site internet. Pour moi, c'est pas charger la barque, c'est beaucoup de. Je connais beaucoup de gens comme ça.
Et alors, donc, le miracle de ce texte, c'est que cette Charlène qui a tout pour être détestable, pourtant, il y a une empathie qui s'installe chez le lecteur. Comment vous l'expliquez ?
Parce qu'elle est tantôt horripilante et tantôt très touchante, ce qui fait qu'on n'arrive pas à raccrocher. C'est qu'à la fois, c'est quelqu'un. Et puis, elle est surtout très drôle. Donc, elle a un humour décapant qui fait qu'on arrive tout le temps à. Malgré ce côté monstrueux dont vous parlez, à nous faire rire aussi. Donc elle est effectivement très touchante, et puis je pense qu'elle rappellera à chacun, ce que me disent les lecteurs, chacun dans son entourage, on a tous été harcelés familialement au téléphone, ou d'ailleurs hors cadre familial, et quelqu'un qui est touchant tout simplement, qui vit des choses terribles avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de dérision, et je pense que c'est le décalage entre la noirceur de ce qu'elle vit, justement ses déceptions sur les sites de rencontres, ses déceptions par rapport aux hommes, par rapport à la vie, et le discours à la fois hyper trash et qui en fait un personnage tout simplement drôle.
Mais finalement, vous l'aimez cette Charlène ?
Bah bien sûr. On l'aime parce qu'elle est, elle est très touchante, et puis elle est surtout, elle est aimable, je pense, à travers tout ce qu'elle traverse. Elle est aussi, il y a des moments effectivement on la déteste, hein, mais il y a des moments où tout ça est totalement dépassé par le, je sais pas comment dire.
C'est drôle les interviews avec vous.
Question de Bernard Lehu.
Et cette facilité chez elle à s'exprimer, cette verve, c'est celle aussi de l'écrivain Carole Fives, non ?
Bah, pour moi, le travail d'écriture, c'est vraiment donner à entendre des voix qui sinon restent silencieuses. Et du coup, il y a forcément un travail de concision, d'exagération, de coupe. C'est tout le travail de l'auteur, quoi. Mais pour moi, écrire, c'est vraiment me faire caisse de résonance des voix autour de moi, de la réalité du monde. Et avec ce matériau, recomposer. Mais effectivement, sans ce matériau, le livre n'existerait pas. Et sans ce travail de réécriture, et je pense que ça serait tout simplement... Pas du tout la même chose.
Alors, je le disais d'emblée, vous êtes l'une des 5 finalistes du prix RTL Lire. Comment on reçoit une sélection comme celle-là ? Donc maintenant, ce sont les lecteurs, évidemment, qui vont avoir le dernier mot, qui sont en train de vous lire, là, tous les 5. Et on sera fixé début mars. En attendant, comment on reçoit ce premier choix ?
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne pensais absolument pas quand j'écrivais le texte. Et c'est un des... En plus du plaisir d'être publié, c'est un énorme bonheur de se retrouver dans cette sélection finaliste, et à côté de quelqu'un comme Tanguy Viel ou comme Daniel Pennac. Enfin, je suis absolument stupéfaite de me retrouver là, et très, très heureuse, bien sûr.
Pourquoi stupéfaite ? Vous doutez de vous, de votre talent ?
Bah non, mais bon, j'ai pas du tout l'envergure de... Enfin, j'ai pas du tout la... Pas l'envergure, mais le...
Le passé.
Le passé, déjà, voilà. J'en suis qu'à mon 4e livre, et c'est vrai que j'ai... C'est une sélection, enfin, c'est un prix que je connaissais, qui est hyper important, donc c'est très... Non, franchement, c'est une grande joie d'être là, ouais.
Et s'il fallait donner une recommandation au lecteur pour qu'il vote Carole Fives, vous leur diriez quoi ? Rien.
Lisez tout simplement. N'écoutez pas ce que je dis. Tout est dans le texte et dans la lecture. Et si vous... Enfin, je pense que les textes parlent mieux que les gens qui en parlent. Et je me méfie souvent des gens qui parlent trop bien de leurs livres. Moi, je pense que le travail est vraiment dans le bouquin, dans le texte. Et pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, c'est pas quelqu'un qui parle. D'où mes erreurs ce matin.
Et quand on vous dit allô, c'est quoi votre premier réflexe ? Allô,
au secours ? Non, ça dépend de la voix, ça dépend du numéro. suis comme tout le monde, je présélectionne mon humeur en fonction du numéro et de la voix qui s'annonce. Et Allo Carole Fiv, je suis toujours heureuse quand on m'appelle.
Même si c'est Charlène.
Charlène, ça dépend le moment. Charlène, c'est quelqu'un qui peut être très envahissante, mais on est aussi content parfois de l'entendre raconter ses bêtises pour pouvoir écrire un prochain livre. Voilà.
Merci, Carole Fiv, une femme au téléphone, l'arbalète, Gallimard.
Merci beaucoup.